Cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 24 octobre 1991.
Nous allons continuer cette recherche du fondement de l'éthique. Je vais aller assez vite parce que on pourrait discuter très longtemps, toute l'année là-dessus. Un problème très difficile. Vous voyez, qui dit fondement va impliquer donc tout un aspect critique. Parce que le fondement, ça ne se voit pas. C'est enfoui. Alors, c'est un coup de sonde comme ça que je fais avec vous. Dans la recherche, et je crois que cette question est tout à fait dans ce sens-là, dans la recherche du fondement de l'éthique, celui-ci est-il découvert par l'expérience? Non. D'une certaine manière, en tant que fondement, non. Mais peut-être au vu de l'expérience. Alors c'est ça qui est le point de vue très délicat sur l'éthique. Où y a, oui, qu'il y a-t-il une connaissance a priori qui permet de découvrir, en dehors de l'expérience, de l'amour d'amitié, la véritable fondement de l'éthique, capable de relativiser toutes les autres. Il n'y a pas de connaissance a priori en philosophie. Le propre de la philosophie, les a priori, c'est toujours quelque chose de personnel. J'ai un a priori, je ne sais pas, vis-à-vis de la politique, par exemple. On a tous des a priori politiques. On est socialiste, on est royaliste, on est conservateur, on est révolutionnaire, on est... En réalité, on doit critiquer ça. Parce qu'un a priori n'est pas quelque chose de proprement humain. La foi pour un non-croyant sera considérée comme un a priori. Et c'est pour ça qu'on doit justifier sa foi. Pour montrer aux incroyants que notre foi n'est pas un a priori. C'est un don de Dieu. C'est pas la même chose. Mais pour celui qui n'a pas reçu ce don, il dira ça d'a priori. Mais c'est très délicat cette question de l'a priori. Mais c'est intéressant, surtout à partir de Kant, de bien comprendre qu'est-ce que c'est que les a priori. Les formes a priori. Il y a des déterminations qui sont fondamentales en nous, qui sont premières. Descartes, il y a des idées innées. Alors si je n'ai pas cette idée-là en naissant, toute ma vie, il y aurait une lacune. Alors vous comprenez, le fondement de l'éthique, qu'est-ce que ça peut être? Alors, où c'est le point de départ? Je pars d'une expérience. Toute la philosophie part de l'expérience. Une philosophie réaliste part de l'expérience. L'expérience n'est pas un a priori. L'expérience, c'est quelque chose que je vis, qui est un donné, et qui me met en contact avec une réalité qui existe avant moi, que je n'ai pas fait, qui s'impose à moi. L'expérience au sens le plus fort, l'expérience qui implique l'alliance de mon intelligence et des sens externes. Et à travers les sens externes, je saisis ce qui est la réalité. Ça, c'est pas un a priori. Je peux très bien ne pas le saisir. Hein. Ça, c'est très vrai. Tout le monde ne le saisit pas, on sera tous d'accord. On ne le saisit pas à cause, justement, d'une quantité d'a priori, très souvent. Prétendre qu'il y a des idées innées, alors là, c'est autre chose. On pourrait dire que pour quelqu'un, c'est une expérience interne. C'est interne qu'il peut avoir. Il a l'impression qu'il y a quelque chose de tout à fait premier qui sont des idées innées. Pour Rosmini, l'idée innée, c'était l'être. J'ai une idée innée en moi, l'être. Ce Non, c'est pas une idée innée, c'est un jugement qui provient de mes expériences. Un jugement que j'explicite. La plupart du temps, c'est pas explicité. Donc, la philosophie commence par une expérience. Ça, c'est sûr. Le fondement, c'est autre chose. C'est une attitude critique qui essaie de voir à quoi se ramènent toutes mes activités. Quand il s'agit de l'éthique, par exemple, toutes mes activités morales. Quel est le fondement de toutes mes activités morales? Alors, je dirais, c'est un amour spirituel. Vous voyez? C'est un amour spirituel qui est le fondement de toutes mes activités morales. Parce que s'il n'y a pas... Je veux dire... C'est l'amour spirituel. S'il n'y a pas cet amour spirituel, il n'y aura pas d'éthique, il n'y aura pas de morale. Quelqu'un qui n'a jamais aimé de sa vie ne peut pas comprendre la responsabilité. Un amour spirituel, c'est-à-dire un amour à l'égard d'une personne humaine, en tant que personne. Donc l'amour à l'égard d'un homme, qui est une personne humaine, un homme ou une femme, il y a un amour. Premier, et l'amour d'amitié est l'expérience plénière de cet amour. Vous voyez, alors c'est ça qui est très curieux en éthique, c'est que l'expérience et le fondement vont se rejoindre, mais sous deux aspects différents. L'expérience, c'est le point de départ qui va me permettre de poser certaines questions, et le fondement, c'est parce que tout se ramène à cet amour spirituel. Et cet amour spirituel n'est parfaitement conscient que dans l'amour d'amitié. Mais fondement et expérience sont deux choses différentes. Alors, dans la recherche actuelle, on dit quel est le fondement de l'éthique. Et je me dis quel est le point de départ de l'éthique. Et est-ce que ce point de départ suffit pour rendre compte du fondement. Et ceci, c'est très particulier à l'éthique. Pourquoi? Parce que l'éthique me montre ce qu'est la finalité de l'homme. Donc c'est la découverte de la finalité qui me permet de faire une philosophie éthique. Si je n'ai pas du tout découvert la finalité de l'homme, je resterai devant la loi. Je dirais l'éthique, c'est parce qu'il y a une loi. Alors je dois faire ça. Vous voyez, pour certains, c'est comme ça. L'éthique, c'est la loi, tout simplement. C'est la loi qui me dit qu'il faut faire ça. S'il n'y a pas de loi, je fais ce que je veux. Oui. Tandis que la loi me dicte, au fond, Kant, l'impératif catégorique, qui est fondement d'éthique et en même temps une expérience. Expérience religieuse qui intérieure, qui est pour lui le fondement. Je dis, ce fondement de l'expérience intérieure ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la finalité n'est pas la valeur. C'est quelque chose de plus profond. La finalité rejoint un bien. Et l'éthique se fonde sur ce fait que je recherche à faire des activités qui sont bonnes, qui sont humainement bonnes, qui sont raisonnables, qui perfectionnent l'homme. C'est ça le propre de l'éthique. C'est ça le propre de l'activité morale. Je distingue le bien et le mal. La distinction du bien et du mal, c'est découvrir ma finalité. Tant que je n'ai pas découvert ma finalité, après tout, je vois qu'il y a des expériences que je fais qui m'épanouissent. Je vois que d'autres expériences que je fais ne m'épanouissent pas. Je discerne des bons champignons et des mauvais, suivant que je digère sans maladie. Oui, c'est, je reste à l'expérience, je n'ai pas découvert ma finalité. Tandis que quand je découvre ma finalité, je peux ordonner mes activités. Autre question. Pouvez-vous préciser pourquoi l'éthique ne peut avoir pour fondement ni la loi naturelle, ni la nature humaine? Je dis ça, c'est parce que, de fait, la loi naturelle, je la découvre qu'à partir d'un point de vue de sagesse. La loi naturelle, c'est le reflet de la sagesse de Dieu en moi. Et je ne le dis donc que dans un jugement de sagesse. Alors, dans un jugement de sagesse, je suis tout à fait d'accord que la loi naturelle est quelque chose de tout à fait fondamental en moi. Mais ce n'est pas donné directement dans une expérience. Et de même pour la nature humaine. Parce que ça se touche, nature humaine ou loi naturelle. La nature humaine impliquant l'esprit implique cette loi naturelle. Il faut faire le bien et éviter le mal. C'est quelque chose de tout à fait fondamental en moi. Alors, est-ce que l'éthique repose là-dessus? Je dirais, dans un jugement de sagesse, je vois que le fondement ultime de l'éthique, c'est bien ça. Mais, quand je commence à faire de l'éthique, c'est à partir de l'expérience. Il faut donc découvrir une expérience telle qu'elle me permet de poser un fondement de toutes mes activités. Donc vous voyez, je lis l'expérience au fondement. La loi naturelle n'est pas reliée directement à cette expérience. Dans un jugement de sagesse, je peux le découvrir. Donc essayez de découvrir la différence entre expérience immédiate, fondement lié à cette expérience et fondement ultime, dernier, qui m'est donné dans un chemin de sagesse. Alors, je dirais, après mûre réflexion, hein, pas la peine ensemble de revoir toutes ces réflexions, mais je constate au point de départ ce que nous avions vu la dernière fois, je constate au point de départ que, de fait, le point de départ de l'éthique en philosophie grecque est très multiple. L'expérience et le fondement sont très multiples. Socrate, connais-toi toi-même. Platon, la contemplation. Aristote, l'expérience du bonheur. L'homme est fait pour être heureux. Les stoïciens, le devoir. Ils annoncent Kant, le devoir. Épicure, la jouissance. L'expérience de la jouissance fond la morale. Et au fond, je reviens toujours à cette jouissance. Et l'ordre différent de mes activités dépendront de la jouissance que j'en ai. Donc vous avez déjà cinq fondements. Au point de vue chrétien, puisqu'on passe ensuite au point de vue des théologiens, au point de vue chrétien, quel est le fondement de la morale? La loi, parce qu'elle est divine. C'est vrai, le fondement de la morale pour un juif croyant, c'est la loi de Moïse. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La loi de Moïse lui est donnée par Dieu. C'est Dieu qui l'éduque par la loi. Au point de vue chrétien, la loi est dépassée. C'est l'amour du Christ. La vocation chrétienne, c'est un lien d'amour avec Jésus. L'alliance. C'est une alliance d'amour, d'époux et d'épouse, qui fait le fondement de ma morale chrétienne et qui est en même temps l'expérience que j'ai de l'amour du Christ. À partir de là, les théologiens préciseront quel est le fondement. Alors les saints prendront Aristote, d'autres, Platon, et ainsi de suite. Il y aura des variantes, mais tous seront d'accord que c'est l'alliance d'amour avec le Christ, de l'époux et de l'épouse qui fondent toute la morale chrétienne. Ça, je crois qu'on ne peut pas nier dans la lumière de la sagesse de la croix. Et dans la lumière de la sagesse de la croix, je comprends cette alliance d'époux et d'épouse. À partir de Descartes, il y a une rupture entre les philosophes et la foi. Puisque Descartes veut chercher un fondement de sa pensée philosophique indépendamment de la loi, indépendamment de la foi. Descartes essaiera de préciser quel est le fondement de la morale. Les idées innées. Ça, c'est les idées innées. Tu as infusé en moi des idées. Des idées innées. L'idée innée qu'il faut
faire le bien, éviter le mal. Et ce sera ça qui sera le fondement de toute la morale. Oui, c'est assez proche des stoïciens. Il faut faire le bien, il faut éviter le mal. Qu'est-ce que c'est que faire le bien? Conformer notre volonté à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. Conformer notre volonté à la volonté de Zeus. Voilà ce que dira Épictète. Oui, donc il y a là un lien, c'est très curieux, que la philosophie reprend son indépendance par le point de vue d'une attitude stoïcienne. Il y a un lien entre les deux. Et à partir de Descartes, vous allez voir alors une très grande diversité au point de vue moral. Je vous ai dit, ce petit livre qui peut être intéressant à regarder, cette petite enquête de Frédéric Lenoir sur tous ceux qui actuellement réfléchissent au problème moral, ils voient la responsabilité. La responsabilité, très bien, mais c'est très subjectif. Je peux fonder ma morale sur la responsabilité. La responsabilité, à cause de quoi? C'est pas la responsabilité qui est l'expérience première. La responsabilité serait, je crois, beaucoup plus une éthique commune, politique. Là, je crois. Dès qu'il y a une petite communauté, la responsabilité joue énormément. Mais c'est très individuel, c'est très subjectif. Donc, c'est un peu dans la ligne de Kant. C'est vrai. Je dois faire ça. Pourquoi? Je suis responsable. J'en suis responsable. Donc, je dois le faire. J'ai promis de sonner la cloche à telle heure. La cloche ne sonne pas. Alors, vous voyez, responsabilité. Je suis moralement tenu à cela. Mais je peux avoir oublié. Hein. Ça peut arriver. Parce que la responsabilité n'est pas toujours en acte. Alors, on oublie. C'est des exemples qui vous font comprendre ce que c'est que le point de vue moral. Dire, alors, il peut naître dans des moments où le sens moral diminue. La responsabilité demeure. Quelqu'un qui thèse là-dessus, qui n'était pas si bête. Dès qu'on est dans un état de crise, le stoïcisme réapparaît. La sacrée droite, c'est le stoïcisme. Ça réapparaît. Dès qu'on est en face d'un gouvernement faible, le point de vue stoïcien, la responsabilité réapparaît. On va comme pas descendre le fleuve à toute vitesse. Il faut mettre des arrêts. Il faut faire ça. Il faut quand même être honnête. Il faut quand même retrouver la justice. Il faut quand même le devoir. C'est très intéressant de voir que, de fait, la philosophie stoïcienne est un peu une philosophie de crise, pour sortir de la crise. Alors, il y a un certain volontarisme. Il faut faire ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Il faut faire ça. Mais pourquoi faire ça? Vous voyez, il le faut, ne dit pas la finalité. Alors, si on se met en dehors d'un état de crise, on essaie de réfléchir tout simplement sur l'apparition de l'éthique. Je crois que c'est une expérience d'amour et d'amour d'amitié qui me met en présence du fondement dans ce qu'il a de plus net de la morale. C'est l'amour spirituel qui fonde la morale. S'il n'y a plus d'amour spirituel, il n'y a plus de morale. Ce n'est pas le devoir, parce qu'avant le devoir, il y a l'amour. Je suis lié au devoir à cause de l'amour. Oui. C'est là où je vois, et c'est intéressant si je suis chrétien, je vois comment le Christ renouvelle tout face au pharisaïsme. Un formalisme est toujours un peu pharisien. Un formalisme légal est toujours un peu pharisien. Je fais la règle. Si je fais la règle, je suis un bon religieux. Tandis qu'à côté, il y a un très mauvais religieux, il ne fait jamais la règle. Faire la règle, c'est, vous voyez, une application formaliste de la règle. C'est pas ça qui définit un bon religieux. Un bon religieux, c'est celui qui aime Jésus. C'est celui qui fait tout par amour pour le Christ. Il passe de la notion de devoir à l'amour. Et je crois que c'est le passage de la première alliance à la seconde alliance. Vous voyez, la première alliance s'achève dans le pharisaïsme. Le pharisaïsme, c'est des gens très bien. Je me souviens une fois avoir prêché à Paris comme ça, j'avais un peu critiqué le pharisaïsme, rappelé les critiques de Jésus du pharisaïsme. Quelqu'un est sorti de là, mais les pharisiens sont des gens très bien. Si vous, ils sont des gens très bien. Et ils ont très conscience qu'ils sont très bien. Et ayant très conscience qu'ils sont très bien, ils deviennent modèles. Les stoïciens disent, le philosophe nati sunt, les philosophes nati sunt ut exemplar. Ils sont nés pour être modèles. Je me souviens, cette religieuse, cette jeune fille qui entrait à Fribourg dans une abbaye. Je suis né pour être abbesse. Évidemment, elle n'est pas restée. Mais c'est nati sunt ut exemplar. C'est très typique, ça, du stoïcisme. Mais ils sont nés pour être exemple. Ils ont cette conscience. Je veux redresser la situation. Donc, je suis né pour être exemplaire. Ça, morale du devoir. C'est très grand, la morale du devoir. Mais c'est court. C'est court. Et dans les moments de crise, ça ne marche plus. Il faut aller au-delà. Mais c'est très curieux qu'en Allemagne, la droite, c'est être conscient. C'est ce que me disait un professeur allemand à Fribourg, qui était professeur d'éthique. Je lui ai dit, quelle est votre éthique ? Mais je suis conscient. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc je suis conscient. Nati sunt ut exemplar. Vous êtes né pour être exemplaire. Oui, le devoir. Le devoir. La droite, c'est le devoir avant tout. Mais non, il y a quelque chose de plus profond que le devoir, c'est d'aimer. Et c'est de faire cette expérience profonde de l'amour d'amitié, où je mets en pleine lumière l'exigence de l'amour. Donc l'expérience de l'amour d'amitié me permet de découvrir ma finalité propre, me permet de comprendre que le fondement de la morale, c'est l'amour spirituel. Et cet amour spirituel n'est parfaitement lui-même que dans l'amour d'amitié. Donc, voyez comment nous pouvons essayer aujourd'hui, devant cette débâcle, ce dégel complet de ce que c'est que l'éthique et la philosophie éthique, la philosophie morale, essayer de reprendre le problème philosophique. Comment l'homme peut-il redécouvrir le sens moral à partir d'un véritable amour, à partir d'une véritable amitié? Et ça, c'est très net. Aujourd'hui, le point de vue, en France au moins, en Allemagne, les sentiments sont un peu différents. Ce qui est assez normal, l'Europe sera en présence de ces différences-là. L'Allemagne a été tellement marquée par Kant. Et Kant a sa noblesse. C'est pas à cause de ça qu'on l'aime beaucoup, mais il a sa noblesse. Il a ses dimensions. Comparativement à un dégel absolu, fais ce que tu veux. Et on descend le fleuve. Et les cadavres descendent plus vite le fleuve que les autres. Alors on n'a pas envie de cadavres pour descendre plus vite que les autres. En face de cela, d'un libéralisme absolu, un libéralisme qui peut aller très très loin, et qui met, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, on fait tout ce qu'on veut, chacun pour sa propre conscience, et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus de nature humaine. En face de cela, on comprend très bien comment on s'appuie sur une philosophie stoïcienne, comment on peut s'appuyer sur Kant, parce qu'on touche quelque chose qui est grand, qui est noble. Oui, mais attention, ce n'est pas ça qu'on cherche en morale, ce n'est pas la grandeur et la noblesse. On cherche qu'est-ce qui va permettre à l'homme d'être heureux. Qu'est-ce qui va permettre à l'homme d'aller jusqu'au bout de toutes ses capacités, les développer le plus possible. Qu'est-ce qui va permettre à l'homme de développer ses talents qu'il a reçus, qu'il a. C'est justement de découvrir ce pourquoi l'homme est fait. Alors, je pourrais dire, le fondement de la morale, c'est la découverte de la finalité propre de l'homme. et cette finalité m'est donnée dans l'expérience même de l'amour d'amitié. Alors là, je précise bien ce qui fonde la morale et l'expérience par où j'atteins ce fondement. Parce que ce fondement implique forcément un aspect critique. Alors réfléchissez, et je peux vous dire qu'aucun autre fondement ne peut être fondement d'une philosophie morale. Vous voyez, en réfléchissant, vous pourrez dire telle, telle chose. Eh bien non, ça ne peut pas. Pourquoi ? Parce que le fondement doit pouvoir être là pour justifier tous les aspects de mon activité éthique, de mon activité morale. Alors, une fois accepté cela, je ne vous demande pas de l'accepter parce que je le dis, je vous demande de réfléchir sur votre propre activité morale et de vous dire qu'est-ce qui fonde cela. Si vous êtes chrétien, dans une lumière de sagesse, vous direz, mais oui, c'est très simple, c'est la volonté de Dieu sur moi. Or, Dieu m'a donné la loi. Pas un iota de la loi ne disparaît. Et la loi me montre ce que je dois faire. Très bien. Mais ça, c'est parce que vous êtes chrétien que vous dites ça. Si vous n'êtes pas chrétien, vous devez réfléchir sur votre nature humaine, une nature spirituelle, où il y a l'esprit. Et vous devez essayer de comprendre quelle est votre finalité. Si vous êtes à côté de votre finalité qui vous permet le développement total de vous-même, vous ne serez jamais heureux. Et donc, il n'y aura pas de bonheur. Et par le fait même, il n'y aura pas de morale. C'est la finalité qui me permet, la découverte de ma finalité, qui me permet de comprendre toutes mes activités morales. C'est ça que je voudrais vous rappeler. Je ne peux pas le faire maintenant, puisque ça, c'était la première année d'éthique. On essaie de comprendre comment l'expérience de l'amour d'amitié, si je l'analyse, je retrouve tous les moments de ma vie morale. C'est assez extraordinaire, ça. Alors, je rappelle très rapidement, pour qu'on creuse, l'amour d'amitié implique un amour spirituel. Il y a toujours un premier amour, un amour spirituel personnel, à l'égard d'une personne humaine. C'est la personne que j'aime. Pourquoi telle personne plutôt que telle autre ? Ah, ça, c'est une expérience. Je ne dis pas que c'est un a priori. Vous n'allez pas dire à la personne qui est votre ami, « Ah, tu es mon a priori. » Non, je t'ai découvert. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui est aussi intelligent que moi et qui ne t'a pas découvert. C'est curieux, ça. C'est très curieux. Il y a une expérience première, fondamentale, qui est cette découverte d'un amour spirituel, la découverte d'une personne. Et dans tout amour d'amitié, il y a ça. On découvre une personne qui est mon bien. Mon bien spirituel, que j'aime. Donc il y a la découverte d'un amour premier, ce premier amour. Ça existe au niveau humain, ça existe au niveau chrétien. On découvre le Christ comme mon bien et on l'aime. Et la vocation repose là-dessus. Et la correction de l'église Éphèse, c'est Dieu qui corrige l'église Éphèse. Dieu oublie ton premier amour. Tout le reste y est, mais Dieu oublie ton premier amour. Donc, c'est la perle précieuse, hein, au plus intime de notre cœur, d'aimer quelqu'un, d'aimer une personne. Il y a un premier amour qui s'impose à moi. Ce premier amour va se transformer, dans la mesure où je l'accepte, dans une intention de vie. Je passe de mon bien à la finalité. C'est ma fin. L'intention intention de vie, c'est ma fin. Mais entre deux, pour ce passage, il faut nécessairement l'intelligence pratique qui ordonne cet amour et qui mobilise toutes mes forces. Ça devient mon bien, devient ma fin. C'est pas la même chose, hein. Le bien peut finaliser, un bien personnel peut finaliser, c'est-à-dire mobiliser toutes mes actes, toutes mes forces en vue de l'acquisition de ce bien, en vue de l'acquisition de cette fin. Puis, vous avez, troisièmement, le point de vue du choix. Je choisis l'ami. Mon bien, ma fin, mon ami. Ce bien que je choisis, que je préfère, et entre deux, il y a encore une phase de l'intelligence pratique. Le conseil, on dirait aujourd'hui, l'information. Je cherche à droite et à gauche et j'essaie de comprendre. Est-ce que ce bien, cette fin, est vraiment ce qui me convient parfaitement? Je reviens à cette question de choix. Et là, je vois que ça me convient parfaitement. Ça satisfait profondément toutes mes aspirations. Il y a ces trois premiers moments qui structurent l'activité morale, l'amour spirituel, l'intention de vie, le choix. Oui, je résume. Tout est structuré par là et je vois que c'est tout le temps le point de vue de l'amour et l'intelligence de plus en plus présent dans l'amour. Quand on fait une retraite d'élection, le choix. L'élection, c'est le choix. Il faut choisir. Alors, on ne fait pas une retraite de choix pour savoir si cette personne est vraiment mon ami. Mais en réalité, on fait une petite retraite. Je prends un peu de... Vous voyez, je commence à aimer cette personne. Est-ce que c'est vraiment un ami? Avant de m'engager, dire je t'aime, veux-tu être mon ami? Parce que dans l'amitié, il y a une réciprocité. Je le choisis comme ami. Et l'ami me choisit. Et l'ami me choisit comme ami. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'amour spirituel dans toute sa force. Et que cette expérience de l'amour d'amitié me permet de découvrir vraiment ce qu'est l'amour spirituel. Parce qu'à ce moment-là, j'aime celui qui m'aime. Et du fait que j'aime celui qui m'aime, je peux avoir toute confiance en lui. Et donc, je peux, à ce moment-là, ouvrir mon cœur, lui livrer mes secrets. Parce que je sais qu'il m'aime. S'il ne m'aimait pas, je ne pourrais pas faire ça. Je serais obligé d'être très discret, faire attention. Je ne sais pas s'il m'aime. C'est cette phase intermédiaire. On se dit, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et il est très correct, merveilleusement correct. Il a l'air de m'aimer. Oui, mais qu'est-ce qu'il pense vraiment? Et plus les personnes parlent bien, plus c'est difficile de savoir si ce qu'elles disent est réel. Tu admirable, tu merveilleux, mais toute la flatterie qu'on peut dire, c'est effrayant. Toutes les fleurs, vous êtes entouré de fleurs. Oui, mais la réalité, et ordinairement c'est autant de l'épreuve qu'on s'aperçoit si l'autre vraiment vous aime. C'est qu'autant de l'épreuve, les amis, qui ne sont pas les vrais amis, disparaissent. Parmi les apôtres, il n'y en a qu'un présent à la croix. Il n'y en a qu'un qui est vraiment l'ami. Parce qu'il est présent à la croix. Autrement, non. Les amis de Socrate, ceux qui restent là, fidèles, jusqu'au bout, jusqu'au moment où Socrate voit les signes. Les autres disparaissent. Et dans le temps d'épreuve, c'est toujours ce qui se paraît. C'est pour ça que les temps d'épreuve sont une espèce de moment très important pour purifier de tout ce que peut représenter un jour. Et l'exécution, c'est ça qui est très important à bien comprendre. Ici, je suis en face d'un aspect affectif. Une union affective. Et ici, je passe dans l'union affective. Tu es mon ami, nous allons vivre ensemble. C'est le passage de l'union affective à l'union effective. On veut vivre ensemble. Et il y a un petit abîme entre les deux. Surtout chez les intellectuels. Chez les gens moins intellectuels, c'est plus facile. Oui. Cet exemple très très joli qu'on m'avait raconté très longtemps, c'était ce petit Normand paysan qui avait déclaré qu'il fallait aller à la messe le dimanche pour voir quelles étaient les jeunes filles sérieuses qu'on pouvait vraiment aimer. Et là, il avait remarqué une qui était très très gentille. Puis, au bout de plusieurs dimanches, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, il l'aimait vraiment, mais comment lui dire qu'il l'aime? Comment lui dire qu'il l'aime? Pas commode. Vous voyez, on passe de l'union affective, intérieure, à l'union affective, la déclaration. Je t'aime. Alors il avait bien réfléchi. Plusieurs fois ça avait raté. Il n'est pas arrivé. Sorti bien ensemble. Il avait rattrapé. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait très beau. Mais ça, c'est pour tout le monde. Il y a une autre chose. Alors il avait découvert ce truc. C'est authentique, ça. Il est arrivé par derrière et puis il lui a donné un bon coup de poing sur l'épaule. Alors, ça l'aidait à dire je t'aime. Et c'est très fort, parce que c'est le geste qui permet de passer à l'exécution. Mais ça fait comprendre ce que c'est que l'exécution, ça. Et au fond, c'est ça. Il y a un passage. On se jette à l'eau. Je t'aime. Et il attendait que l'on dise je t'aime. Il y a eu un silence. Vous voyez, c'est l'exécution, c'est à l'intérieur de la